Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 4 décembre 2023, c'est la semaine des Game Awards, c'est la semaine de la célébration de ce beau monde qu'est le jeu vidéo. C'est pour ça que dans ce sommaire des news jeux vidéo, de l'industrie du jeu vidéo de la semaine, il y aura bien sûr des restructurations et des licenciements, mais pas seulement, rassurez-vous, on va parler de plein de choses, on va parler de Dragon's Dogma 2, on va parler de GTA. Ah ouais, à ce qui paraît, on va parler de Fortnite aussi. Et on va parler également un petit peu de People Can Fly. On va parler de la presse spécialisée jeux vidéo britannique. Nous aurons aussi un petit peu l'occasion de regarder quelques bandes annonces de jeux plus ou moins indépendants que je vous ai mis de côté, avec des dates aussi. Si vous regardez cette émission, ça veut dire naturellement que vous avez déjà regardé l'hebdo origami de la semaine dernière, bien sûr, où je vous dis tout le bien que je pense de Worldless, et où mes collègues vous parlent de leur expérience sur Small Saga, sur le making of de Karateka, enfin Making Karateka, et puis également sur Warhammer, Age of Sigmar, Realms of Ruin, mais ça veut dire aussi que vous avez également regardé la toute première de Super Vieux Jeux, l'émission Retro Gaming d'Origami, animée par Sylvain Tasté, bien sûr, en compagnie de Raphaël Lucas et de Patrick Elio. Un épisode, un bon bébé, de 3h15, tout dédié au cinématique platformer, qui est sorti donc sur la chaîne YouTube d'Origami. Je vous recommande chaudement ces deux visionnages, ce sont deux émissions qu'à titre personnel, en les ayant regardées plus tard, j'ai trouvé assez chouettes. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'il y a quand même un truc qu'on n'a pas fait depuis très longtemps ici. Ça fait combien de temps, en vérité, qu'on n'a pas regardé une bande-annonce bien bullshit ? Genre bien bullshit. Genre bien bas du front, bien... c'est les Game Awards 2014 ou quoi ? Donc je vous propose de nous tourner vers un studio chypriote qui s'appelle Neki et qui nous propose des nouvelles de son jeu Spine, qui a légèrement changé de style. On en parle juste après, si bien sûr mon Stream Deck ne m'a pas lâché. I have to warn you that pressing the wrong floor may lead to unexpected consequences. Who the fuck are you? No elevator this time? Et voilà donc pour Spine. Spine, vous l'aviez peut-être découvert sous une autre forme il y a quelques années, annoncé en 2021 donc par un studio chypriote, je le disais, Neki. Neki a jusqu'ici uniquement fait du jeu mobile. Et cette fois-ci, écoutez, ils décident de changer un petit peu leur fusil d'épaule avec ce jeu-là. Ils avaient annoncé un shooter multijoueur pour PC et console. Shooter multijoueur pour PC et console qui s'est transformé de l'intérieur pour devenir, peut-être parce que le free-to-play ça marche plus des masses, ou peut-être parce qu'ils ont senti le vent tourner, un jeu d'action solo, entièrement solo, inspiré par John Wick et par Sifu. C'est donc la discipline du fameux Gunfu, et donc du Gunfu que vous avez pu voir, hein, effectivement, je ne vais pas vous reparler d'Equilibrium, on va s'arrêter là. Évidemment, pour l'instant, le jeu n'a pas de date de sortie, mais il promet des combats ultra chorégraphiés, dans un univers cyberpunk impitoyable, dit-il, avec une héroïne, comme vous avez pu le voir, haute en couleur, ainsi qu'un assistant virtuel qui lui parle dans son oreillette. Tout y est. Toute la recette du jeu de 2013 y est, et j'ai surtout très très hâte désormais de voir le gameplay évidemment qui se cache derrière cette cinématique en bullshot CG. Mais j'avoue, j'aurais regardé ça il y a 10 ans, il y a 12 ans, à l'époque où on regardait encore la première bande-annonce de Wet par exemple, où l'héroïne sautait de bagnole en bagnole ou ce genre de choses, j'y aurais cru à mort. Sauf que même ces bandes annonces là, on ne les retrouve quasiment plus, même dans les Game Awards, sauf peut-être une fois de temps en temps pour vendre un Battle Royale avec des vampires. ou un truc du genre. Donc tout récemment, Capcom, la semaine dernière, hein, tout récemment, a fait le plein d'informations à propos de Dragon's Dogma 2, ou vous a fait faire le plein d'informations à propos de Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2, du coup, déjà la première information, c'est une date de sortie calée au 22 mars 2024. Cette fameuse dernière cartouche hein, de Capcom pour cet exercice fiscal, 12 ans après son premier épisode, et toujours avec Hideaki Tsuno à la barre, bien sûr, avec entre les deux, hein, un certain Devil May Cry 5. Oui, je dis Devil. Et alors, grosse bande-annonce hein, au passage, avec notamment une mise en avant très prononcée des différences et des similitudes scénaristiques entre les deux jeux, qui va sembler en fait adopter une approche jouable sans avoir fait le 1. Attendez, je vous avance un petit peu dans l'image. Jouable sans avoir fait le 1, mais évidemment bourré de références et de symboles lourds de sens si vous avez fait le premier épisode, soit ce que font tous les développeurs de jeux d'une suite qui arrive plus de 10 ans après, hein, y a pas vraiment d'autre choix. Dragon's Dogma 2 va donc exploiter à fond l'idée de cycle lorsqu'il sort le 22 mars prochain, de cycle, de boucle et quelque part aussi un peu de multivers ou de monde parallèle en tout cas. Voilà, c'est un truc qui est déjà dans l'univers de Dragon's Dogma. Ça permettra de faire revenir certains persos ou pas, de faire revenir certains monstres ou pas, de faire revenir certains dragons ou un certain dragon ou pas. Personnellement, je ne connais pas suffisamment Dragon's Dogma et je préfère très directement vous orienter vers l'excellent débrief qu'a proposé sur YouTube le camarade Nostalgeek, qui est également la personne qui fabrique les miniatures de ma chaîne YouTube. Sur l'une de ces deux chaînes, il vous propose justement un petit débrief de ce que Capcom a présenté. Si comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose et que vous n'êtes pas vraiment sûr de réussir à faire le 1 avant de vous lancer dans le 2, eh bien c'est peut-être une bonne porte d'entrée que cette vidéo. Parce que, évidemment qu'on a envie d'entrer dans ce jeu, évidemment parce que le jeu est beau, il bouge si bien, t'as envie de monter dans le train de la hype même si t'as pas les connaissances nécessaires sur le sujet. Je ne vous juge pas hein, si vous êtes dans la même situation que moi, vraiment je suis dans ce cas là actuellement, j'ai très envie de jouer à Dragon's Dogma 2 et ce que j'ai vu tourner durant cette présentation de Capcom me plaît énormément. Alors Capcom en a aussi profité pour montrer un peu les différentes classes de personnages et donc les différents styles de combat hein, puisque comme vous le savez, dans cet action RPG, choisir une classe, c'est choisir vraiment une manière de jouer et la manière dont vous aborderez toute l'action du jeu au travers de tout le jeu. Et il me semble que vous ne pouvez pas trop en changer en cours de route, mais je pourrais peut-être me tromper là-dessus. Ils vont jouer un maximum, comme vous pouvez le voir sur ces captures, sur les rapports d'échelle de certains affrontements, et puis montrer un petit peu les quêtes secondaires, le fonctionnement du système de pions. Hein. Si vous ne connaissez pas Dragon's Dogma, les pions, ce sont vos compagnons IA. On en parlait sur Origami la semaine dernière, on se disait que ce serait vraiment trop cool. Quand on voit le jeu, on n'a qu'une envie, c'est y jouer à plusieurs, et c'est vrai que malheureusement, eh bien, c'est un système autre, c'est un système avec des compagnons IA, et donc là dans la présentation on vous montre notamment un moment où il faut aborder telle quête avec le bon compagnon qui a la bonne caractéristique pour pouvoir comprendre ce que dit un personnage, parce qu'il sert de traducteur dans le dialogue. Et puis voilà hein, également détaillé une nouvelle classe, la classe de l'illusionniste qu'on a vu un petit peu en mouvement, et bien sûr ouvrir les précommandes, c'est officiel, on en est certain maintenant, il n'y a plus à ergoter. Dragon's Dogma 2 a décidé de s'emparer du premier trimestre 2024 pour faire sa communication. Et comme vous le savez, Capcom, ils aiment bien blinder hein, en amont de la sortie du jeu. Donc ça sort le 22 mars 2024 et sur les trois prochains mois, on risque d'en avoir peut-être même plus que ce qu'on désire savoir à propos du jeu. On sera amené à en reparler si on découvre des choses plus intéressantes que d'autres. Je sais déjà qu'on est plusieurs, nous, sur Origami, à être intéressés par le jeu. Il y a moi en nouveau candidat. Il y a Moguri également qui s'intéresse pas mal au jeu. On est tous les deux un petit peu effectivement effrayés par certaines séquences qu'on a pu voir dans la présentation, notamment les espèces de séquences de, on va appeler ça tower defense, mais donc en gros quand il faut empêcher une très très grosse bestiole d'avancer vers un campement, ambiance Zora Magdaros dans Monster Hunter. Bref, On va regarder un petit peu tout ça et j'espère, je croise les doigts, j'adorerais qu'on puisse eh bien être plusieurs sur le plateau d'Origami à avoir essayé le jeu au moment de sa sortie pour pouvoir vous en parler et avoir une sorte de discussion enrichissante sur le sujet. Est-ce que c'est un message passé au RP de Capcom ? Absolument. Et c'est vrai aussi GTA 6, petit jeu, un peu attendu, mais ça n'a pas non plus l'air d'être incroyable. GTA 6, c'est peut-être repréciser les choses la semaine dernière pour dire, ouais, voilà, la bande-annonce, non, elle ne sera pas au Game Awards, oui, elle aura lieu, alors il me semble, je ne sais même plus quand est-ce que c'est dans 2 jours, je crois, un truc comme ça. Donc non, ne nous attendez pas au Game Awards, ce dont on s'imaginait, enfin ce qu'on s'imaginait assez naturellement. Et en fait, de là, on s'est retrouvé avec pas mal d'autres jeux qui se sont dit, ouais, mais moi j'aimerais quand même continuer à exister un petit peu dans le paysage, quoi, et qui se sont dit, bah tiens, dans ce cas-là, tiens, je te propose un truc, je te propose simplement, voilà, on va poster ça, tiens, on va poster ça, c'est une bonne idée, ça. Alors Call of Duty Warzone, voilà, Call of Duty Warzone qui fait, oh, regardez, j'ai utilisé les mêmes couleurs, moi ce sera le 6 décembre, mercredi aussi, tiens, c'est fou ça. Et puis on a Fall Guys aussi, 6 décembre, hein, regardez comme c'est beau, moi aussi, nouvelle bande annonce, hein, ça c'est incroyable, hein. Halo Infinite, oh là là, nous c'est carrément le 4 décembre, c'est aujourd'hui. Donc, alors, bon, effectivement, on est en mal. On est en mal de communication, bien sûr, on est en mal d'existence sur Internet quand on sait que l'année prochaine, tout ce qui touchera à GTA va venir écraser la communication des autres jeux. Mais devinette, parce que c'est quand même rigolo, devinette, quel est le point commun entre toutes ces entreprises et tous ces studios et tous ces éditeurs qui singent la com du jeu le plus attendu de l'histoire? Juste comme ça. Bon, allez, je vous la fais courte. 343 Industries, ils ont restructuré en début d'année, et le rapport du studio avec Halo est potentiellement en balance. Bon, en gros, ça va pas bien, et la licence va pas bien. Activision, empêtré dans une crise de confiance autour du dernier Call of Duty Modern Warfare 3, qui préfère vous dire, ouais, regarde, c'est Warzone, ne regarde pas MW3, regarde plutôt Warzone. Et Epic qui édite Fall Guys, qui a taillé tellement fort dans les développeurs de Fall Guys, lors de la grosse passe de licenciement d'octobre, que certains employés de Mediatonic ont estimé que le studio avait été décimé. Que des gens qui ont besoin très très fort qu'on regarde ailleurs, qu'on regarde vers l'avant avec eux plutôt que dans leur tiroir en ce moment. On voit un petit peu la manière dont ça saute dans le train, ça essaie de s'accrocher à la locomotive pour faire oublier un petit peu les errements passés ou les errements tout récents. Ceci dit, moi je l'ouvre là, on est là genre ouais, regardez comme il désingue les puissants, regardez comme il flingue les grosses entreprises, mais cependant on va parler de Fortnite, hein, donc bon voilà, hein, ici comme ailleurs, on fonctionne avec les cycles de communication, même des très grosses entreprises, donc le Fortnite Big Bang. Alors le Fortnite Big Bang, c'était le trop. Ah tiens, je veux dire très gros et j'ai dit trop. Bon, le trop gros événement narratif autour de la licence d'Epic Games, c'était ce week-end. Plus de 10 millions de spectateurs in-game, hein, puisque pour rappel, ces événements se passent vraiment dans le jeu. On se connecte dans le jeu pour être témoin de des transformations, des trucs qui ont été préparés. Et puis plusieurs autres millions, bien sûr, de gens qui n'ont pas pu se connecter dans le jeu parce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de l'espace disponible et qui ont donc suivi ça via Twitch. C'est en gros une relecture de l'événement The End. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement The End, en fait, où la carte de Fortnite avait été aspiré dans un trou noir, et cette fois-ci en fait aspiré dans un nouveau trou noir, le temps de présenter 3 nouveaux modes de jeu, 3 nouveaux plutôt jeux dans le jeu en vérité, hein, cet événement Big Bang, dont un qui nous avait été fortement teasé en amont. Je vous le donne en mille, le voici. Lego Fortnite arrivé le 7 décembre dans Fortnite, donc hein, voilà, bon bah ça effectivement, hein, le fameux partenariat stratégique annoncé par Epic il y a un certain temps maintenant, avec aux côtés de ce monde-là, un autre monde dans le monde. C'est quoi cette histoire ? Le Rocket Racing. Alors Rocket Racing, c'est un jeu de course arcade développé par les développeurs de Rocket League, justement, hein, qui sont possédés, pour rappel, par Epic. Et de leur côté, eh bien, bah voilà, ça va être un jeu de course sur lequel, bah, pour l'instant, en tout cas dans cette bande-annonce, on voit les personnages de Fortnite qui sont sur le dos des, enfin sur le dos, sur le toit des véhicules. Mais c'est surtout, voilà, une expérience arcade que l'on peut vivre dans le jeu, sachant que le clou du spectacle de cette présentation, une fois qu'on avait fait la connaissance de Rocket Racing, eh bien, c'était un concert interactif d'Eminem que je vais bien me garder de vous diffuser pour des raisons évidentes de droit. Un concert interactif d'Eminem, un truc vraiment gigantesque, hein, façon Travis Scott dans Fortnite. Attendez, on doit pouvoir le voir par ici, je pense. Voilà, ce genre de truc, façon Travis Scott dans Fortnite, je le disais. Là, pour présenter le troisième univers des sous-univers du Big Bang de Fortnite, à savoir le Fortnite Festival. Et le Fortnite Festival, eh bien, c'est tout simplement le jeu à l'intérieur de Fortnite développé par Harmonix. Harmonix, les créateurs de Rock Band, qui bossent désormais, on le sait, pour le compte de Epic et pour le compte de Fortnite. Donc, en gros, c'est un jeu qui doit à la fois mixer du jeu de rythme, bon, ben, assez classique de chez Harmonix, finalement, et puis en même temps, eh bien, des espèces de super performances comme ça, une immensité vraiment, où, voilà, des artistes très chers et très cotés, comme peut l'être Eminem en 2023, je sais plus. Eh bien voilà, vont mener une espèce de des espèces de concerts géants autour de vous pendant que vous jouez un jeu de rythme. C'est surtout un jeu de rythme par Harmonix qui va être adossé à un budget en matière de licence de musique qu'on imagine assez faramineux. Hein, il faut bien... En même temps, j'imagine qu'on a dégagé un peu de cash en vendant Bandcamp. Bref, évidemment, toute la promesse ne s'arrête pas là, hein, et on sent bien que c'est ça, finalement, le Epic 5.0 dont parlent certains grands pontes de l'entreprise. C'est fini les univers de marques simplement représentés à base de collections cosmétiques, et c'est désormais bonjour les univers de marques jouables avec Lego en ambassadeur. Un ambassadeur qui n'est pas facile à convaincre, hein. Je vous le rappelle, on en a déjà parlé ici. Lego fait très très attention à son image sur Internet. Il cultive une vibe très familiale, très tournée vers la sécurité des jeunes en ligne. Lego n'est pas sur Reddit, Lego n'est pas sur TikTok, n'est pas sur Twitch non plus. Mais Lego, à partir de après-demain, après-après-demain, sera dans Fortnite. Et ça, ça va être un levier de communication très très fort vis-à-vis des parents de jeunes joueurs. Ça va être une espèce de saut de qualité, de saut de confiance vis-à-vis des parents. Et bien sûr, hein, des parents de gamins qui un jour deviendront grands, un jour auront leur première carte bleue, et miam miam la galette. Et ainsi de suite, jusqu'au Epic 6.0, Epic 7.0, et ainsi de suite. Donc voilà, le futur d'Epic, hein, ça ne semble pas complètement coupé dans le futur du mode Battle Royale, évidemment, mais plutôt une espèce de promesse d'aller picorer d'un truc à l'autre avec, on l'imagine, tout un travail qui risque d'être mené, un travail de fond pour réduire au maximum ces frictions, les temps de chargement entre les jeux, ou même l'impression de changer de jeu. L'encouragement à jouer aussi va être très très important, hein. Là par exemple, ils ont annoncé en même temps que Fortnite Lego, ou Lego Fortnite pardon, que certaines skins des plus célèbres de l'univers de Fortnite Battle Royale seraient disponibles gratuitement en version Lego si vous les possédez dans le mode Battle Royale. Donc il y a vraiment des conjonctions, des connexions qui vont se faire entre les deux jeux à l'intérieur du jeu, et pour évidemment essayer de pousser un petit peu les ventes, de pousser la pratique des différents modes, et bien sûr une offre d'expérience de jeu qui va aller grandissante. Ça, on le comprend aussi, hein. Songez à toutes ces équipes qu'on aimait bien et qu'on a vu rejoindre la famille Epic. Je cite pour travailler sur des expériences Fortnite hein, cette année. Pardon. L'année dernière, c'était par exemple Aquiris. Aquiris, studio brésilien que vous connaissez pour Horizon Chase 1 et 2, qui ont été intégrés par Epic et dont on sait désormais qu'ils travaillent sur des expériences internes à Fortnite et qui travaillent, et ça c'est toujours le truc important, avec une série d'outils, une série d'outils qui doit être mise à disposition du plus grand nombre de studios, si je comprends bien, qui pourraient vouloir effectivement se foutre à la colle avec une marque pour proposer un jeu, un univers jouable de cette marque, sachant qu'on imagine bien sûr que Epic va faire très attention, parce que si tu as un ambassadeur comme Lego derrière, tu vas pas faire venir n'importe qui, mais quand même, on imagine que ça va ouvrir la porte au fur et à mesure. Donc c'est ça, Fortnite Big Bang, c'est ça, des nouvelles du fameux métavers, mais enfin, ça n'est jamais plus vrai dans l'image qu'on se fait du métavers que ce que effectivement Epic est en train de mettre en place là. Est-ce que ça nous branche? Est-ce que ça m'intéresse? En tant que phénomène, je trouve ça passionnant à regarder. Terrifiant aussi. Mais cette fois, on comprend le projet. Oui. Fini le métavers pour aujourd'hui. Et bonjour, les jeux du PlayStation Plus essentiels. Et c'est essentiel, hein, c'est donc ce catalogue de 3 jeux qui se renouvelle tous les mois. Donc ce mois-ci, en ce mois de décembre, il y aura 3 jeux pour les abonnés essentiels et pour les autres paliers d'abonnement, bien sûr. Sable dans sa version PS5. Power Wash Simulator dans les versions PS4 et PS5, donc voilà. Voilà pourquoi vous n'irez pas, manifestement, voir votre famille durant les fêtes ou vos amis durant les fêtes, parce que vous serez en train, probablement, de nettoyer une aire de jeu ou un hangar avec de l'eau propulsée à très haute pression. Et également, Lego 2K Drive. Alors, Lego 2K Drive, il me semble que ça a été à peine annoncé, que c'est déjà une sortie directement dans le PlayStation Plus, cette histoire, non ? Ah non, c'est sorti cette année. Pardon, excusez-moi. J'avais complètement... Lego 2K Drive. Ah non, c'est sorti en mai. Oh, le temps passe si vite quand on monte un média de jeux vidéo. On oublie les bases. C'était déjà sorti Lego 2K Drive, mais donc disponible dans le PlayStation Plus essentiel. Et des nouvelles également aussi du Game Pass. Le Game Pass qui vous propose sur ce début de mois de décembre une assez jolie livraison de jeux tout de même. Les voici. Agadez donc. Alors, il y en a qui sont déjà sortis, bien sûr. Remnant et Remnant 2 sont d'ores et déjà disponibles dans le service. Alors, Remnant, le premier s'appelait Remnant from the Ashes, le deuxième s'appelle uniquement Remnant 2. D'ailleurs, il semblerait que chez Embracer, on soit très heureux des performances de Remnant 2 sur cette première année de lancement. SteamWorld Build, hein, également, hein, le jeu de construction dans l'univers SteamWorld de Image & Form, est déjà disponible dans le Game Pass, que vous soyez sur console ou sur PC. Spirit of the North, également déjà disponible. Ça nous vient d'Islande, hein, vous le voyez juste ici. Et il s'agit d'une aventure narrative au contact des animaux. Alors, on sent déjà qu'on va chialer un petit peu tout de même. Et puis demain sortiront également Clone Drone in the Danger Zone. Ne me posez aucune question, je ne connais pas le jeu. Ainsi que Rise of the Tomb Raider. Est-ce que c'est sa première dans le service d'abonnement de Microsoft? J'ai comme un petit doute sur le sujet. Mais également While the Iron's Hot. While the Iron's Hot, c'est un... prononciation catastrophique. C'est une sorte de life sim où vous ne jouerez pas un fermier ou un jardinier, mais cette fois-ci un forgeron, tout en pixel art, c'est très très joli, c'est sorti il y a quelques temps, si je ne dis pas de bêtises, ainsi que World War Z Aftermath, également sorti dans le service. Et puis le 7 viendra, donc c'est jeudi, viendra Goat Simulator 3, hein, le jeu parfait auquel jouer durant les Game Awards dans la nuit du 7 au 8. Le 8, ce sera le City Builder en forme de roguelite Dark Fantasy Against the Storm, pardon, qui arrive lui aussi dans le Game Pass. Le 12, le jeu d'aventure et de puzzle Teen Hearts. Et enfin, le 14, Far Cry 6, après que Far Cry 5 soit venu occuper le terrain pendant un certain nombre de mois sur le Game Pass. Donc on est quand même sur une fat livraison qui... on va pas se mentir, sent un peu le glissement de contrat dans le sens où eh bien, les dernières sorties, notamment sur la fin octobre, c'était pas du tout pourvu de la même manière, il n'y avait pas un tel foisonnement de jeux, et on sent bien que voilà, Microsoft avait s'est débrouillé comme ils ont pu, mais ils ont réussi à faire venir beaucoup plus de jeux sur début décembre, et pas, ils n'ont pas réussi à équilibrer par rapport à mi-octobre, quoi. Mais effectivement, ben voilà, à titre personnel, étant curieux de Spirit of the North, de Steam World Build, et de Against the Storm, je trouve ça plutôt intéressant. Et ça veut pas dire que c'est pas intéressant sur PlayStation, attention. Hein. Bon, Lego 2K Drive, c'est clairement pas ma sauce, mais Power Wash Simulator, je sais à quel point, là pour le coup, c'est vraiment une sauce. Et puis Sable, avec lequel je suis un peu fâché, mais qui a quand même des arguments à faire valoir, et j'imagine qu'après quelques patchs, ça n'en est que plus vrai. Des nouvelles du PCF. Et je parle pas de Fabien Saucisse Roussel, je parle du studio polonais People Can Fly. Alors People Can Fly, que l'on sait en phase de mercenariat pour plusieurs éditeurs, en parallèle, ou en tout cas qu'on savait en phase de mercenariat sur différents projets. Alors il semblerait justement que l'écart entre People Can Fly et Square Enix continue de se creuser après le projet Outriders. Outriders, c'est leur première collaboration. Et une fois que j'aurai réappris à parler, on pourra continuer. Collaboration qui, malgré un lancement réussi, n'avait pas été jugée assez rentable par Square Enix, qui est une histoire que vous devez connaître au fur et à mesure. En tout cas, pas assez rentable pour que les revenus aillent un peu profiter à son développeur, en gros. People Can Fly attend toujours un chèque de Square Enix et se demande si les calculs du coût, notamment marketing d'Outriders, ne seraient pas un peu bizarres du côté de chez Square Enix, parce qu'ils ont pu simplement payer le développement, mais pas grand-chose de plus. Et justement, à la place d'un rapprochement potentiel entre Square Enix et Outriders autour et People Can Fly autour d'Outriders, eh bien les deux entités semblent fâchées sur une prochaine licence. En gros, ils ont entamé le travail sur une nouvelle licence, un nom de code Gemini, dont le futur semble désormais incertain. En tout cas, incertain selon un document publié à destination des actionnaires par People Can Fly il y a quelques jours. On y apprend que le studio et Square Enix sont entrés dans une phase de négociation pour statuer ensemble sur le futur de ce nouveau jeu. C'est un destin qui a l'air un peu écrit, je ne vais pas vous mentir, il a l'air un peu écrit à l'avance, parce que dans le communiqué, on peut lire, et là, je cite, « En se basant sur l'évolution actuelle des discussions, le conseil d'administration de People Can Fly considère comme forte la probabilité que le développement de Gemini soit abandonné. » Le document fait également une rapide passe sur l'état actuel de la relation avec Square Enix et sur le peu d'espoir de la faire évoluer dans le bon sens dans les temps à venir. C'est un constat qui commence à se répliquer au sein du studio, puisque, pour rappel, ils avaient déjà perdu un contrat d'édition autour du projet Dagger avec Take-Two, qui s'était retiré du projet, et People Can Fly avait décidé de continuer sans Take-Two. Reste désormais, du coup, l'attente d'une annonce officielle et publique, et pas uniquement pour les investisseurs, de l'annulation très probable du projet Gemini entre People Can Fly et Square Enix. Après quoi, le studio n'aura plus que un contrat d'édition en poche, mais en vérité beaucoup de projets, parce qu'ils ont leur projet en auto-édition, ils ont Project Dagger qui en fait partie, et puis le projet Maverick. Le projet Maverick est une commande, pour rappel, de Microsoft, dont le budget serait estimé entre 30 et 50 millions de dollars, ce qui veut absolument tout et rien dire malheureusement, et pour lequel justement le développement serait partagé, ça c'est intéressant, le développement du projet Maverick pour Microsoft serait partagé entre les antennes européennes et les antennes nord-américaines de People Can Fly, parce que peut-être que la dernière fois que vous avez suivi les news jeux vidéo, PCF c'était un studio ou deux antennes en Pologne et c'est marre. Sauf que maintenant, ils se sont un petit peu étendus, les pépères, ils se sont même beaucoup étendus. Ils ont au moins deux bureaux ou deux antennes de développement en Amérique du Nord, en plus d'avoir un petit peu effectivement ramifié sur l'Europe. Oh, on va parler d'Unity. Oh, le plaisir! Unity appuie sur le bouton Reset. Et ça veut dire, licencier. Encore. Donc l'entreprise, pour rappel, sort tout juste de son plus gros scandale à date, hein, avec cette tentative de racket sur les développeurs de jeux Unity, un racket au nombre d'installations de jeux. Et puis l'entreprise avait annoncé récemment hein, que une fois effectivement John Riccitiello, son ancien CEO, mis dehors parce qu'il a fallu quand même qu'il fasse fusible tant l'idée était merdique, eh bien ils avaient annoncé que d'autres suppressions de postes seraient à prévoir d'ici la fin de l'année. Et c'est chose faite, hein, joyeux Noël aux 265 personnes licenciées avant les fêtes. Bravo, le contrat est rempli, c'est la quatrième passe de licenciement en moins de 2 ans chez Unity et ça porte le compte à presque 1500 suppressions d'emplois depuis 2021, ce qui est grosso modo le chiffre que vient d'annoncer Spotify. J'ai lu ça tout à l'heure, c'est pas le sujet mais j'ai lu ça tout à l'heure. Et donc le PDG intérim du groupe qui s'appelle James Whitehurst, qui est un ancien de IBM, a vraiment utilisé le terme reset, le terme de réinitialisation business, comme une sorte de besoin impérieux qu'aurait l'entreprise de s'alléger pour aller dans le bon sens, pour aller vers le haut. Hein. L'entreprise, c'est comme une montgolfière, tout ça. Donc ce serait a priori l'entreprise d'effets spéciaux Weta Digital qui prendrait la max sur cette phase de licenciement. Pour rappel, Weta, donc boîte d'effets spéciaux construite à la base, fondée à la base par Peter Jackson, la partie interactive rachetée fin 2021 par Unity pour 1,65 milliard de dollars. Et bien sûr, 2 ans plus tard, eh bien, on licencie une bonne partie de cette partie interactive justement. Honnêtement, ça ne me surprend plus vraiment. Hein, voilà, je ne vais pas continuer à faire. Mais vous vous rendez compte, c'était il y a seulement 2 ans. On sait qui sont les Visual Suspects, Unity, Embracer. On les voit, on vous voit, il n'y a pas de souci. Des bureaux commerciaux en Europe également ferment. Des bureaux commerciaux aux États-Unis, à Singapour. Que des choses qui avaient été annoncées hein, dans cette espèce de préavis de licenciement qui avait été signifié aux investisseurs il y a 2 semaines. Et il y a même une partie de l'antenne historique de Unity à San Francisco qui ferme pour donner une entreprise des locaux un peu plus petits. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que lors du rachat de la partie, en fait, la partie interactive qu'a pris Unity, eh bien, le reste de Weta Digital, donc l'entreprise de Peter Jackson, s'est renommé en Weta FX et Weta FX a déjà exprimé, ou en tout cas s'est rassemblé sous le nom Weta FX, et Weta FX a déjà exprimé son souhait d'embaucher autant de naufragés de Weta Digital qu'ils pourront le faire. Alors, ça veut tout et rien dire, bien sûr, mais dans la mesure où ils ont vendu cette branche à Unity il y a 2 ans pour 1,65 milliard de dollars, ils les voient faire n'importe quoi avec, ils voient des talents là-bas, peut-être qu'ils auraient bien voulu avoir en ce moment avec eux, ils vont essayer d'en réintégrer autant que possible, sachant que les deux entreprises restent liées, hein, c'est-à-dire que même après cette phase de licenciement, eh bien Weta FX utilise des outils qui appartiennent aujourd'hui à Weta Digital et qui lui sont donc loués par Unity. Ils vont juste, en fait, c'est un client de Unity qui va réembaucher certains employés avec qui ils travaillaient avant. Bien sûr, si on est dans le licenciaton, ça veut dire qu'on va parler de Embracer, hein, qui est toujours en pleine restructuration, si bien que voilà, on est amené à parler du groupe suédois toutes les semaines en ce moment, et pas en bien, évidemment. Alors cette fois, c'est le studio allemand Fish Labs qui prend. Alors Fish Labs, les joueurs et les joueuses mobiles, notamment, connaissent le studio pour la série des Galaxy on Fire. Mais en 2021, Fish Labs se lance un défi, et ce défi, c'est de sortir Chorus. Chorus, ça ressemble à ça, je vous mets quelques images juste ici. On parle d'un jeu de dogfight spatial avec une grosse mise en scène, avec un gros scénar. Vraiment d'excellentes sensations hein, d'ailleurs, une fois que tu débloques le fameux drift dans l'espace. C'est un jeu que j'avais pu essayer sur PS5 et les premières heures m'avaient beaucoup, beaucoup plu. J'avais juste pas pu terminer pour plein de raisons. Et Chorus, il y a des chances que vous soyez tombé dessus hein, grâce aux différentes offres d'abonnement. Il me semble qu'il est passé, en tout cas ça j'en suis absolument sûr, dans le PlayStation Plus. Est-ce qu'il est dans le Game Pass? Est-ce qu'il est passé par le Game Pass? Je crois. pour le trouver, hein, cherchez bien avec la graphie, avec un V à la place du U, parce qu'il était écrit Corvs et pas Chorus. Et donc voilà, Chorus, justement, Embracer, par l'intermédiaire de sa branche d'édition Playon, ils en ont bien profité hein, du jeu. Ils l'ont mis dans les différents services d'abonnement, ils ont récupéré des checkos de ci, de là. Et le problème, c'est que ensuite, quand il est venu l'heure, le temps des quatre nains, quand il est venu le temps de financer le prochain jeu de Fish Labs, et ben là, Playon a voilà, décidé de faire un peu la fine bouche, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on comprend en recoupant le communiqué officiel et les témoignages d'anciens employés. En plein dans sa restructuration, Embracer via Play, enfin Playon via Embracer, juge finalement que le prochain pitch de jeu de Fish Labs, un studio qu'il possède, ne vaut pas leur argent et donc donne l'ordre de dégraisser. Je possède ce studio, il me propose un jeu que j'estime, alors que je suis en pleine période où je veux faire des économies pas dignes de mon blé. Et bah, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que bah, vous allez faire autre chose et vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Et si ça nous permet de dégraisser au passage, on le fait. Fish Labs comptait donc entre 100 et 120 employés il y a encore quelques jours et ils n'en compteront demain plus qu'une soixantaine. En grosso modo, hein, on perd la moitié de l'effectif du studio. Ils n'auront pas de projet véritablement à eux et ils vont devenir, pour l'instant, tout du moins, un studio de support pour des développements considérés comme plus prometteurs au sein du groupe Embracer. Donc une petite citation de circonstance de Phil Rogers, qui est patron de la stratégie chez Embracer. C'est pas une citation qui est directement liée à cette annonce, mais elle était faite dans une interview donnée quelques jours avant que Fish Labs ne se fasse réduire la moitié de son effectif. Le coût humain de cette restructuration est significatif, mais nécessaire. Ça secoue un petit peu fort dans la presse spécialisée jeux vidéo britannique. J'en parlais dans le sommaire. En fait, il y a une société qui s'appelle Readpop qui, en gros, a plusieurs activités. L'événementiel d'un côté, les médias de l'autre, mais pas seulement. On en parle souvent ici parce que Readpop, c'est ceux qui avaient été mandatés pour essayer de ressusciter l'E3 en 2023. On a vu le résultat, il n'y en a pas eu. Readpop, donc, possède également pas mal de publications spécialisées dans le jeu vidéo, comme par exemple, vraiment, des petits trucs de rien du tout. Hein. Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG247, Dicebreaker, un petit peu plus éloigné, et puis GamesIndustry.biz, franchement, l'une des sources d'infos industrielles les plus carrées à l'heure actuelle. En plus, il bosse avec Marie D'Alessandri, une Française qui est allée travailler à Londres et qui assure un max. Donc, ils ont également aussi des parts dans Digital Foundry, Readpop, dans Outside Xbox, et puis voilà, dans d'autres sociétés de médias comme ça. Le truc, c'est que Readpop, bah, tous ces médias rassemblés sous sa branche qui s'appelle Gamer Network, bah, ils en veulent plus, quoi. Ils en veulent plus, et l'entreprise, elle réfléchit actuellement à liquider ses activités médiatiques britanniques, comme ils disent, à revendre tout ça, en gros, bah justement, soit en gros, soit au détail. Remarquez d'ailleurs, hein, voilà, l'entreprise, elle dit qu'elle, enfin, en tout cas, elle laisse entendre qu'elle semble vouloir se recentrer sur l'événementiel, sur l'organisation de ce qui marche dans sa galaxie de jobs et de domaines, hein, la Comic-Con. Le GX sont des événements qui sont possédés par Readpop. Et puis, il y a cette citation dans l'annonce d'une recherche de repreneurs pour ces médias. Une citation qui fait forcément un peu mal. Là encore, je vous la donne. « Readpop a passé en revue ses activités britanniques et croit qu'un changement de propriétaire offrira des conditions plus propices à la croissance. » Il manque un truc dans cette phrase. C'est à la croissance de qui ? Remarquez comme la croissance, là, on ne précise pas si on parle de la croissance de ces médias, on a compris. Mais la phrase est volontairement alambiquée pour laisser entendre que peut-être qu'avec un autre repreneur, ces médias seraient en meilleur état et auraient peut-être la confiance et les moyens dont ils ont besoin pour croître. Non. Donc voilà, on imagine bien sûr que c'est la croissance de Readpop, hein, un changement de propriétaire pour ces médias, offrirait des conditions plus propices à la croissance de Readpop. Voilà donc plusieurs rédactions particulièrement sérieuses, hein, parce que Eurogamer, pour moi, c'est du très bon taf. Gamesindustry.biz, c'est de l'incroyable boulot. Digital Foundry, on aime ou on n'aime pas, mais dans le paysage, ça a été plus sous, ça a permis parfois de comprendre des choses, ça a aussi permis malheureusement parfois de créer des fantasmes, mais c'est un autre problème. Et qui, des rédactions donc, qui se retrouvent bousculées à nouveau et potentiellement menacées, hein, parce que lors de ces changements de main de possesseurs, hein, sur des médias, eh ben, on attire parfois les groupes peu scrupuleux et les futurs casseurs de rédaction. Hein, ça s'est déjà vu, enfin, parfois plus proche, hein, il n'y a pas besoin de traverser la Manche. Voilà. Genre à Boulogne, quoi. Vraiment, par exemple. Et on voit, bien sûr, d'ici fleurir de nouvelles initiatives indépendantes dans les temps à venir. Hein, parce que tout récemment, on a par exemple vu Aftermath, hein, par des anciens de Kotaku. Bien sûr, on a vu Second Wind qui s'est lancé en indépendant avec son propre système de financement par des anciens de The Escapist, hein, parce que The Escapist s'est fait lui aussi rincer par son propriétaire. On a vu Origami, on a vu d'autres trucs, on a vu Sumimasen Turbo, bref, vous voyez tout ça, quoi. Grosso modo, effectivement, il faut s'attendre à voir fleurir une espèce de tapis comme ça. On sait très bien que c'est compliqué, on sait très bien que la fatigue des abonnements, le fait que la vie des gens qui suivent ces médias est déjà conditionné par le prix d'un certain nombre d'abonnements, rend les choses encore plus compliquées. On sait très bien qu'à chaque fois qu'arrive un nouveau média qui dit « moi aussi, je vais essayer de sortir du modèle traditionnel de financement », c'est encore plus de pression mise sur les gens qui soutiennent et sur le public, etc. Mais il faut s'y attendre. Il faut s'attendre à ce que dans les temps à venir, d'autres groupes comme ça, d'autres rédactions... Je leur souhaite le meilleur, j'espère sincèrement qu'ils trouveront des repreneurs qui essaieront de les emmener dans le bon sens. Mais si ça coince, c'est souvent comme des rédactions qui sont faites de gens qui savent déjà exactement comment ça va se passer et qui risquent de partir monter des newsletters, monter des podcasts, monter des trucs avec à chaque fois un Patreon derrière ou autre chose. Ce qui est normal, on l'a fait et on viendrait pas en arrière. La semaine dernière, on parlait de suspicion d'utilisation d'IA générative, donc d'intelligence artificielle générative, par Bandai Namco, après une fameuse débâcle, la débâcle du doublage anglais de Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. J'avais juré que je reprononcerais jamais le nom de ce jeu, et pourtant me voici à nouveau dans la panade. Pour rappel, il y avait eu plusieurs comédiens et comédiennes présents au générique du jeu, qui s'étaient insurgés du rendu final, et avaient émis l'idée que l'éditeur japonais avait peut-être... enregistrer une partie des dialogues et ensuite générer le reste grâce à de l'IA, d'où les variations de ton, d'où les variations d'intention de jeu, d'où même parfois des soucis au niveau de la qualité des fichiers audio. Une accusation qui serait d'autant plus lourde que la production du doublage du jeu était encadrée par un accord syndical qui prohibait vraiment toute utilisation de l'IA, prohibait ce genre de manœuvre de manière générale. Et donc Bandai Namco a répondu officiellement au moyen d'un communiqué qui a été transmis à la rédaction d'IGN US. Donc je les cite, « À propos des quelques lignes de dialogue pointées du doigt dans le jeu, Bandai Namco Entertainment assure qu'aucun contenu n'a été généré par IA et que les problèmes relevés, ils acceptent qu'ils existent, hein, les problèmes relevés, résultent d'irrégularités durant les phases de montage et de mixage. » De là, l'entreprise ne peut décemment pas laisser le sujet dans cet état. Donc elle s'engage bien sûr à patcher le jeu en conséquence. Et puis certainement aussi en croisant les doigts dans le dos pour que les comédiens et les comédiennes de doublage rangent leur fourche, en restent là et que tout le monde puisse passer à autre chose. Donc j'avais dit qu'on suivrait le sujet s'il y avait de l'évolution. L'évolution actuelle, c'est que pour l'instant, Bandai Namco dément toute utilisation frauduleuse, car elle serait frauduleuse à ce moment-là, d'IA générative dans la manière dont a été géré, intégré, décliné le doublage de Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Avant de passer au bref, je voulais simplement vous recommander une lecture que j'ai trouvée assez chouette sur le site thegamer.com. La traduction française de cet article, du titre de cet article, c'est l'histoire interne de Fable 3, le jeu qui a brisé le cœur de ses créateurs. Je vous mets le lien sur le chat et dans la description de la vidéo. Alors, ses créateurs, c'est Peter Molyneux compris, qui est interviewé dans l'article. Donc naturellement, quand on sait à quel point le monsieur a été porté sur les affabulations diverses et variées qui ont fait retomber énormément de boulot et de pression sur ses équipes, c'est un peu compliqué. Mais ça reste quand même extrêmement intéressant, donc des témoignages, des témoignages qui parlent de petits moments molineux, de molinades, dirons-nous. Le rôle de Microsoft vis-à-vis de Lionhead au moment, à la période de développement de Fable 3, une litanie absolument infinie de sacrifices fait en cours de route pour que le jeu puisse sortir. C'est un super article, vraiment. Et puis, bah, voilà, comme je dis d'habitude, certes, c'est en anglais, mais je pense que si vous le passez à une petite traduction automatique, ça devrait garder voilà, le son plus intéressant et le son plus passionnant si vous aimez le jeu. Attention juste à la traduction automatique de Microsoft. Alors, dans les brèves, Ubisoft. Il y a eu une suite de fuites absolument malencontreuses autour de la licence Beyond Good and Evil, mais pas de Beyond Good and Evil 2. Non, on parle de Beyond Good and Evil 1. Hein. Ils auraient voulu nous faire une surprise pour les 20 ans du jeu chez Ubisoft, sauf que il y a d'abord eu les petites fuites, et ensuite il y a eu les moyennes fuites, et puis ensuite il y a eu carrément des abonnés Ubisoft Plus qui ont pu télécharger une version de développement du remaster de Beyond Good and Evil 1 de manière accidentelle. Donc là, forcément, la fuite, elle est mouse. Et puis la fuite, elle est difficile à colmater. Parce qu'à partir de là, YouTube s'en empare, ça fait des vidéos sur l'état technique actuel du remaster. Spoiler, si on en croit ce remaster, il y a des problèmes, mais en même temps, on ne devrait pas avoir à étudier des jeux en développement. Donc si on regarde une version en développement et que soudain, il manque la moitié des shaders, que l'eau n'a même pas un shader d'eau, ce genre de choses, bon, on ne devrait pas avoir fait cette vidéo YouTube. La vérité, c'est que maintenant, elle est là. Et que Ubisoft va devoir célébrer les 20 ans de Beyond Good and Evil dans une ambiance de merde. Dans une ambiance de merde, parce qu'eux, ils auraient voulu annoncer un lifting graphique en 4K, 60 FPS, des commandes modernisées. Ils se retrouvent avec déjà un jeu qui se fait démonter sur Internet parce qu'une version de développement est sortie accidentellement. Donc ça, c'est effectivement une gestion de tout ça qui est absolument catastrophique. Hein. Quand on a des effets visuels manquants, ce genre de truc, et qu'on finit par officialiser la chose un petit peu en catastrophe. Maintenant, c'est annoncé pour une sortie l'an prochain, donc c'est pas comme si ça sortait dans une semaine. Ils peuvent tout à fait se retrancher derrière, c'est une version de travail, et c'est ce qui est dit actuellement. Mais je me demande si ça ne va pas, cet événement, enclencher un scénario qu'on connaît déjà, et le scénario Prince of Persia, les sables du temps, qui, lorsqu'il est dévoilé comme étant un simple lifting, se prend une volée de bois vert, parce qu'on attend, les fans, le public, semble attendre d'Ubisoft qu'il réalise un vrai remake. Et c'est là qu'on rentre dans cette boucle infinie, le jeu part à Mumbai et à Pune, et puis revient dans l'autre sens à Montréal, etc., etc. Je me demande en fait quelle va être désormais l'image du jeu sur Internet, et est-ce que Ubisoft va encore une fois nous refaire le coup, ou peut-être se faire ce cadeau, parce que c'est peut-être un cadeau qui pourrait se faire, de dire, bon, écoutez, en fait, finalement, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre ça un petit peu de côté et on va essayer de penser à quelque chose d'un peu plus intéressant qu'un lifting. Mais voilà donc un anniversaire bien mal organisé et on verra pour la suite, pour le 1 comme pour le 2, on verra ce que la licence a encore à dire l'an prochain. Tant qu'on est dans les brèves, j'en parlais la semaine dernière sur Origami, mais la Arkham Trilogy est sortie sur Switch. Alors, pendant qu'on regardait effectivement la trilogie des jeux Rocksteady s'avancer vers une console comme la Switch, on a eu quelques questions, comme par exemple, est-ce que ça va tourner ? A priori, les premières personnes qui ont acheté le jeu répondent, bah non, pas trop. Donc, on oscille, en tout cas en termes de ressenti sur Internet, entre mouais et oh là là, c'est honteux et à peine jouable. Donc, de manière générale, juste faites attention à vos sous, surtout si vous espériez faire Arkham Knight. On se doutait bien qu'Arkham Knight allait être un sujet pour une machine comme la Switch. Voilà, c'est tout simplement pour que vous soyez prévenus. Tant qu'on y est, la série Fallout, produite par Amazon Prime et bien sûr coproduite par Todd Howard et par Bethesda et par Microsoft, a publié sa première bande-annonce, puisque pour rappel, on sera en avril de l'an prochain, je crois, quand Fallout fera ses débuts à la télévision. Je ne vous diffuse pas la bande-annonce pour des raisons évidentes de droit, et je ne vous donnerai pas mon avis pour des raisons évidentes de « j'ai pas envie de m'énerver ». Disons que voilà, ça témoigne de la même compréhension des prémices de Fallout que les jeux Bethesda, ce qui est normal, vu que c'est produit par Bethesda. Et du coup, voilà, vous en avez peut-être entendu parler. Baldur's Gate 3 a sorti son 5e ou 6e gros patch, et dans celui-ci, eh bien, il y a bien du contenu en plus. Un nouvel épilogue, hein, pour les gens qui estimaient que le jeu se finissait de manière trop abrupte après ses 280 heures de gameplay. Et donc, un nouvel épilogue, des nouvelles lignes de dialogue, toutes sortes de nouvelles choses qui, voilà, emmène la réactivité de l'univers de Baldur's Gate 3 jusque dans l'après fin de jeu, pour voir un petit peu ce qu'il est advenu de tel personnage, selon les choix que vous avez faits. Ils ont essayé de, voilà, d'étoffer un petit peu tout ça, histoire de s'assurer un 10e playthrough par Héloïse Linossier. Je crois qu'elle en est là, hein. Je crois vraiment qu'elle en est là. Quelques dates, quelques reports, quelques bandes annonces avant qu'on aille Red Origami. Déjà, le studio The Game Bakers a sorti un demake de Fury qui s'appelle The Chain. Et en fait, c'est un petit exercice de skill et de style, qui consiste à vous reproposer le premier combat de boss de Fury en version pixel art et side-scrolling. Voilà, c'est un petit mini-jeu juste pour le plaisir. Également, on reste dans le jeu français Chia qui est sorti cette année. N'oubliez pas Chia durant les Origami Awards, c'est important. Chia sortira donc sur Steam en mars 2024. On a également Homeworld 3, hein, du côté de chez Gearbox. On a recommuniqué sur Homeworld 3 pour dire que Homeworld 3 allait bien, mais qu'il allait avoir encore besoin d'un petit peu de temps, ce qui fait que Homeworld se repousse pour la combienième fois, je ne sais plus, mais se repousse au 8 mars prochain. Chez Level 5, on a organisé le Vision 2023 tout récemment, ce qui permettait grosso modo de parler du catalogue et surtout de repousser l'intégralité du catalogue. C'est là qu'on a pu voir un petit peu de gameplay pour Professor Layton and the New World of Steam, qui est donc prévu pour 2025. Et on a également le jeu d'enquête Decapolis, je ne sais pas si vous aviez vu cette nouvelle annonce de chez Level 5, qui est lui aussi reporté à 2025 sur Switch et PlayStation. Inazuma Eleven Victory Road vise désormais 2024. Bon, lui, il visait l'an prochain. Ça fait quoi, 7 ans qu'il fait ça, un truc comme ça. Donc, il commence à avoir un peu l'habitude. Et puis, quelques bandes annonces au passage. Par exemple, le 12 janvier, le shmup français Shinorubi sortira d'accès anticipé. Oh, dis donc, là-haut. Shinorubi, donc, un sorti d'accès anticipé le 12 janvier, ça arrive du coup sur un certain nombre de machines, on est sur PlayStation, on est sur Switch, on est sur PC également. J'ai dit, pour les gens qui nous écoutent en podcast, j'ai dit, oh dis donc, parce que bah, le key art du jeu, c'est une petite dame courbitue, que voulez-vous. Alors forcément, retournez-vous, hein, les gens qui étaient sur Twitch, retournez voir ça sur YouTube, parce que la compression de la vidéo sur Twitch, ce genre de jeu, ça ne fonctionne pas. Le prochain de cette sélection s'appelle Ultros. Ultros sortira le 13 février. Ultros, c'est un Metroidvania. Et peut-être que vous avez déjà repéré sa DA. Peut-être que vous connaissez cet artiste quelque part. On en parle juste après. A myth. A tale of a long forgotten saint. For there was once an empty potential about to be birthed into existence. But the potential was greeted by short-sightedness. Although nigh honestly covetous, nor completely barren, it swallowed up everything that was given. Thank you. Alors Ultros, vraiment, c'est des parties pris graphiques poussées à leur paroxysme. On est sur effectivement une science-fiction un peu 70s, extrêmement colorée. Est-ce que la lisibilité en jeu y survivra? Ça, c'est une autre question. Et c'est développé en grande partie par un certain El Huervo. El Huervo, artiste sur les illustrations principales des Hotline Miami, musicien également, notamment sur Hotline Miami, mais pas seulement. Voilà, c'est, il me semble, le premier jeu quasiment solo de El Huervo, et puis on l'imagine aussi très probablement à la bande originale du jeu, bien sûr. C'est l'exact inverse de Worldless, on est d'accord là-dessus. Le prochain jeu qui s'est également daté sur ce début d'année, bien sûr, hein. On était sur le 13 février, on se dirige vers le 22 février, le joli mois de février qui se prépare. C'est enfin une date, une vraie, pour Pacific Drive. Est-ce que vous remettez Pacific Drive? Oh, vous allez le remettre, vous allez voir. The Olympic Peninsula, the crown jewel of the Pacific Northwest. Its unmatched views and quiet solitude offer everything you need in the most beautiful place on earth. There is no cause for alarm. Take shelter in the closest pocket of stability in your area, and please refrain from thoughts or memories of home. The chain of events were in plain sight. Strange accidents leading to the government's claim of eminent domain and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation of 100,000 people and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. Et j'espère que c'est ça la musique de Pacific Drive, parce que sinon je vais m'énerver fort fort. Ça a l'air tellement cool. Pacific Drive, du coup, un jeu de survie dans une bagnole. Comment s'appelle ce modèle de bagnole extrêmement réputé aux États-Unis avec les côtés en bois très 70s? Bref, on va être sur de la survie dans un univers particulièrement pas fantasy mais science-fiction. Et donc vous serez en monde ouvert dans cette bagnole que vous allez modifier à loisir, alors que le monde est manifestement menacé par toutes sortes d'anomalies magnétiques et de bestioles, peut-être même un petit peu d'extraterrestres, on ne sait pas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort avec Pacific Drive. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'essayer à ce jeu qui sortira donc le 22 février. Ouais, moi je prends ça, je suis curieux. Mais ça va être difficile d'y faire de la place, effectivement, sur le mois de février, parce qu'il s'en passe des choses durant le mois de février, notamment juste sur les gros jeux. Mais on va faire le boulot, on sera là pour ça. Et d'ailleurs, le 22 février, bah juste aussi, il n'y a pas de trailer cette fois-ci, mais Sons of the Forest, la suite de The Forest, pardon, sortira d'accès anticipé le 22 février, histoire de venir un petit peu alourdir ce mois-ci. J'espère que le prochain jeu de cette sélection, voilà, au moins il ira vers mars ou avril, bref, prendra un peu son temps. Je parle bien sûr de Harold Halibut, qui ne nous donnait plus de nouvelles depuis des mois et qui en redonne à nouveau. Ça nous vient d'Allemagne, un studio qui s'appelle Slow Bros. C'est entièrement fabriqué en pâte à modeler, avec des décors entièrement faits en maquette. On la regarde, bien sûr qu'on la regarde en entier, évidemment on est là pour ça. C'est un kind of adventure. A way of exploring lots of little worlds that exist within the fedora. Even if one of those little worlds looks barren and uninhabitable from the outside, usually when you make contact with it, you'll find plenty of life and laughter there. Hello again, my alien fish bud. How are you doing? Too bad you can't tell me. Were you? I quite wondered if maybe you'd take Harold with you. Me? To the cave? Yes, to investigate the source of the particles. Humans are so unpredictable and complicated. There is almost nothing to understand. Please witness the future of Fedora. I thought you said it wasn't a vote. It's not. I just happen to agree with them.
Is that not a computer? You may commence stage D as discussed.
Something is afoot. Too many things that don't add up.
It all seems a bit fishy to me.
Ouais, je désire ceci. Donc Harold Halibut, comme je le disais, hein, on est sur des techniques mixtes bien sûr, mais beaucoup de maquettes pour les décors, de maquettes filmées, de personnages animés et, enfin, modelés et animés en pâte à modeler, avec pas mal de stop motion et puis de l'accompagnement informatique bien sûr. Et donc le jeu a décidé qu'il allait dire « T'inquiète, je serai là ». Sur le début du mois, sur le début de l'année prochaine. Alors, voilà, c'est pour ça que je disais, évite février si possible. Voilà, il arrive early 2024, comme on dit. Je vous conseille, si vous venez de flasher sur le jeu, de regarder les autres bandes annonces, parce qu'il y a des trucs absolument fous. La dernière, vraiment, je pense que c'est une des plus belles bandes annonces de jeux vidéo que je connaisse, en tout cas de mémoire récente. Même si en ce moment, c'est rude, hein. Enfin, je veux dire, la concurrence est rude, vraiment, on a de très très belles bandes annonces, notamment chez les indés. Également sur 2024, mais 2024 ce sera pour une entrée en accès anticipé, eh bien on a un certain Airborne Empire. Airborne Empire, c'est la suite de Airborne Kingdom, avec toujours Paul Aubry bien sûr à la musique, et toujours de la construction de base volante. Ouais, Airborne Empire, ouais, oui, on prend ça, bien sûr, bien, aucun problème pour Airborne Empire, moi je serai là, on va bien manger en 2024, moi j'ai l'impression qu'on va bien manger en 2024, vraiment, j'y crois, j'ai l'impression que là, s'aligne un certain nombre de trucs qui font que d'ici juin, on aura de quoi, en fait, dire c'est bon, arrêtez, moi j'ai plus rien besoin pour l'année à venir, donc effectivement, c'est la suite Airborne Empire, après Airborne Kingdom. Une dernière bande-annonce de gameplay, parce que j'en parlais la semaine dernière et que j'aime bien, voilà, s'il y a une suite, je préfère qu'on prenne ce temps. Je vous disais donc qu'un nouveau studio interne à ARS Studio essayait de faire revenir Tribes, sous la forme d'un Tribes 3 Rivals, qui serait en train de chercher des playtesters hein, sur son Discord. Eh bien, maintenant, on a du gameplay, donc on sait ce que c'est. On sait que c'est grosso modo Tribes Ascend, avec un petit peu, voilà, une petite surcouche technique, histoire de dire que c'est pas le même jeu. Et ça va, ça me va très bien, c'est pas grave. Bon, je vous rappelle les bases, hein, bien sûr, avec Tribes 3 Rivals. C'est toujours un shooter qu'on pourrait confondre de loin avec Unreal Tournament ou un autre truc du genre, sauf que c'est de la capture de drapeau et tout va reposer sur votre capacité à utiliser le décor et le terrain pour gagner un maximum d'élan et garder cet élan. Et je referai, oui, je... c'est Tiny Wings, ouais, je referai ma comparaison avec Tiny Wings, je suis désolé. Même les bruitages sont exactement les mêmes que dans Tribes Ascend, un jeu qui avait été abandonné et exécuté en place publique, hein, très honnêtement, par ARS Studio, tout ça pour le faire revenir quelques années plus tard. C'est pas joli, c'est pas bien beau. On a déjà parlé des, voilà, de la méthode ARS qui n'est pas tout à fait louable. En tout cas, j'en parlais dans l'émission précédente si ça peut vous intéresser, mais rien que de voir effectivement une possibilité de rejouer à Tribes l'an prochain dans une version 1.0 qui pourrait avoir quelques semaines de pure hype. Ouah, je suis méga chaud. Je suis méga méga chaud. Après, combien de temps ça va durer avant que ARS fasse n'importe quoi, bien sûr, c'est une autre question et je n'ai pas la réponse à cette question. Je regarde l'heure, il est 13h34, je vois Origa Twitch en live, ça veut dire que mon plan s'est parfaitement déroulé, je termine les news et je vous donne rendez-vous sur un live Origami en compagnie de Sylvain Tasté qui va jouer à SteamWorld Build. Alors, sans plus attendre, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous donne rendez-vous en live toute la semaine sur le Twitch d'Origami. Il y aura des VOD, bien sûr, sur YouTube. Cette vidéo ira sur ma chaîne en VOD. Vous aurez, bien sûr, notre hebdo vendredi à 13h, comme à l'habitude. Vous aurez peut-être même d'autres choses assez cool, notamment une nouvelle mensuelle qui pourrait faire ses débuts cette semaine. On croise les doigts. Il reste encore à affiner 2-3 trucs pour pouvoir vraiment vous le confirmer. Mais rejoignez donc le Discord pour ne rien rater des annonces à venir. Prenez grand soin de vous, comme je le disais. Et puis force pour cette nouvelle semaine. Ah oui, très bien. Donc merci beaucoup pour cette petite matinée, ce petite pause de midi ensemble sur l'actualité du jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci aux personnes qui soutiennent mon travail sur Patreon, patreon.com/goto. Ça me fait extrêmement plaisir de voir encore autant de gens qui file un coup de main à ce boulot, en attendant bien sûr que tout ça soit mis sous l'égide d'Origami. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est transitoire tout ça. Merci les numériques qui viennent de raid, alors que vous allez participer directement à un nouveau raid direction Origami pour voir ou puis jouer à un city builder avec des cowboys, des robots et des fusées. Prenez grand soin de vous, merci pour tout et à très vite. Salut.